France Inter, il est bientôt 11h05. C'est le bazar. Sébastien Danchin, François Jenny, bonjour.
Mais c'est quoi leur tablier là? C'est quoi?
C'est les tabliers de sapeur.
Ah, c'est pas les tabliers de forgeron?
Non, c'est les tabliers de sapeur sur les Champs-Élysées.
C'est pas des culottes de
femmes. Ils sont beaux, la Légion.
Ah oui, avec l'équipe qui blanc. Ah,
François, avec des épaulettes rouges, magnifiques. Regarde, non, mais écoutez, regardez. Ah, c'est génial.
Ça a commencé.
Pardon.
Parce que là, sur les Champs-Élysées, si c'est propre et bien rangé, ici, c'est le bazar. Ah, vous avez éteint la télé, c'est bien. Vous avez bien fait. Donc, on reprendra tout à l'heure.
Oui, c'est.
Moi, ça vous dérange pas si éventuellement on pouvait un petit peu faire de.
Allons-y. Quand vous plongez vos mains dans votre bazar, qu'en sortez-vous aujourd'hui, Sébastien?
Alors, j'en sors. On l'a dit hier en lançant cette émission. On en sort le regard que peuvent porter sur nous et sur notre pays.
Ah, mais c'est le 14 juillet, c'est pour ça.
Nos frères étrangers, exactement. C'est pour ça que je me suis intéressé.
La France vue par les étrangers.
Exactement.
J'ai déjà quelque chose à vous proposer.
Dites-moi.
Dans Il Corriere della Sera, le quotidien italien. Hier, on pouvait lire ceci. Si les Bleus avaient perdu, les Français auraient peut-être de nouveau froncé les sourcils et auraient reporté leur amour vers les plus autochtones guerriers du rugby ou vers les cyclistes solitaires du Tour de France. Peut-être, mais ces jours-ci, dans les rues, on a vu une France qui ne ressemble pas à l'image qu'elle s'était pendant longtemps taillée. Voilà un regard.
Ah bah oui, c'est un regard italien. Et donc, c'est ça la France, d'une certaine manière.
Ah ben, juste, là, vous l'avez dit, Sébastien, mon copain.
C'était la façon de le dire.
Oui, mon vieux, c'est ça la France.
Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, sa manifestation. Ça sort tous les samedis, dépensé sans pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent. Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse, ça tout va, c'est beau le sein d'une fille. Ça camembert le chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus la joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovoy. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent, ça OS chez Renault, chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça flique quand même pas mal, ça repasse à tabac. Ça chauffe un peu dans les bas, je rentre à la casse-bas. Ça bouge sous les périphes, ça roule encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits. C'est ça la France, du Chili dans les gars. gamelle et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T. C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons.
C'est ça la France, Marc Lavoine.
Mais j'avais reconnu sa voix.
Bon. Alors, le thème du jour, Sébastien, vous allez nous le rappeler, c'est...
La France vue de l'étranger, le regard qu'on porte sur notre pays. Je pensais que vous le saviez maintenant.
Bon, alors...
Oh là là.
Vous voulez que je vous parle de quoi?
Oui, donnez-moi des chiffres. Comment ça parle des chiffres?
Pour détendre l'atmosphère.
Oui, ça vous fait de ça bien. Alors faites-le, mon vieux.
La France vue par les étrangers. Alors qu'est-ce que les étrangers peuvent voir en priorité chez nous, Français? Bah, par exemple, qu'on est des gros vendeurs d'armes.
Bah ouais, pour le 14 juillet, c'est logique.
Bon, si les États-Unis vendent chaque jour, en moyenne, pour 28 millions de dollars d'armement, les Russes, chaque jour, 12 millions 3 à peu près, de dollars, ouais. Toujours. Ouais. Bah, la France, quand même, pas mal placée, 5,8 millions de dollars. Dollars en chiffre d'affaires, ce sont les ventes d'armes quotidiennes en France.
Même le 14 juillet.
Oui, même le 14 juillet, on les montre. Hein, c'est une grosse opération de. Bon, alors le Français est buveur.
Oui, oui, ah ben ça c'est sûr, le français.
L'étranger le sait, l'étranger le sait.
Ça il sait, on est gros consommateurs de vin, de même que les Espagnols, les Italiens. Et d'ailleurs, les Espagnols, les Italiens tentent de nous
arracher ce record. Sébastien, je vais peut-être vous décevoir, mais le français est un gros consommateur d'eau.
Vous m'avez habitué à l'excellence, mon vieux.
150 litres d'eau par jour sont consommés par les Français. Bon, il n'y en a que 7%.
Oh là là,
il n'y en a que 7% pour l'alimentation.
150 kilos.
Il n'y en a que 7% pour l'alimentation, le reste c'est pour l'hygiène, le nettoyage, etc. Mais nous buvons moins d'eau. Parlons des étrangers, nous consommons moins d'eau que les Suédois, que les Norvégiens ou que les Suisses, parce que les Suisses sont beaucoup plus propres que nous.
Oui,
tout le monde le sait.
Propre.
Mais nous buvons beaucoup plus d'eau que le Belge et l'Anglais.
Oui, le Belge et voilà. Oui et l'Anglais est également. Alors justement, ce qui est intéressant,
j'ai d'autres chiffres encore.
Pas tout de suite si vous voulez bien. Je vous propose de réfléchir au mode d'emploi de cette journée, cette émission.
Allons-y. Oui, parce
le mode d'emploi est suivant.
Le Français donne souvent l'image d'être quelqu'un de bordélique. Il est organisé.
Ah, il est organisé, très organisé. Je le suis en tout cas. Vous le savez, c'est une de mes marottes, l'organisation. Et j'ai donc décidé de vous montrer la France vue par des groupes d'étrangers pris par nationalité. Nous allons commencer tout de suite par des Russes. Des Russes interviewés en 62, et vous allez voir ce qui les intéresse, surtout en France, ce qui les interpelle, comme on dit fort peu joliment aujourd'hui, eh bien, ce sont nos voitures.
Nous notons la présence en France ces derniers jours d'un groupe de touristes russes, qui est de plus en plus normal, semble-t-il, car les Russes aiment visiter la France ces dernières années. Ce qui est original, c'est que ces Russes soient venus en voiture, nombreux, et qu'ils nous livrent aussi des réflexions empreintes d'un certain humour. L'un de nos reporters, Michel Nicot, a rencontré le chef de cette caravane qui lui a tout d'abord donné des impressions sur la Côte d'Azur.
Et ce que nous a plu surtout, c'est que les Français, après avoir appris que nous autres, nous sommes les Russes, ils nous montrent une hospitalité particulière. Je pense que cette amitié franco-russe qui existe depuis déjà longtemps est toujours vivant dans le cœur des Français. Et une impression qui peut-être n'est pas trop favorable, c'est que la France est peu à peu asservie par les voitures. La France est un pays qui a des rues étroites, puisque ce sont toujours des villes anciennes, et ces rues étroites supportent avec une grande difficulté cette grande masse de voitures. Je vois que les voitures ont déjà envahi toutes les rues. Il se trouve déjà sur les trottoirs. Je crains que dans un avenir proche, ils entreront dans les maisons.
Le père des peuples nous en préserve.
Mais dites-moi, Sébastien, en 1962, la francophonie se portait vraiment bien. Ces Russes parlent un français excellent.
Et alors, je peux vous dire, même pour avoir décrypté les dites archives, que ce monsieur que nous avons entendu, c'était la première fois qu'il venait en France. Alors, vous voyez, il parle un français remarquable. On voit que ce sont des gens cultivés, intelligent et extrêmement doué. Alors, on peut se poser la question, qu'en est-il des autres peuples? Alors,
posons la question.
On va tout de suite aller de l'autre côté du rideau de fer. On va aller voir nos amis américains. Alors, pour ça, j'ai demandé à Tommy Franklin de réaliser un reportage. Alors, Tommy, vous avez rencontré un groupe de jeunes Yankees.
Ce qui fait que j'ai pu rassembler autour de notre micro, dès leur arrivée, Bob Rossler, 14 ans, Dakota du Sud, Russell Grip, 14 ans, Californie, et Roger Hoffman, 17 ans, également Californie. Alors j'ai demandé à Bob Rossler, pour commencer, la première chose qui l'avait frappé en arrivant dans notre capitale.
Well, what I've heard about Paris, the Paris girls, is true. And I even think more of them now than I would have heard.
Eh bien, tout ce qu'on m'a dit sur les jeunes parisiennes est la vérité. J'en pensais déjà beaucoup de bien. Et ce que j'en ai déjà vu me confirme. Moi, have you already seen them? Vous les avez déjà vus alors?
Yeah, on the bus, we have seen quite a few.
Ah, en bus, nous en avons vu plusieurs et elles nous ont plu.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Canada 2 weeks ago. France has not been in military possession of Canada for more than 2 centuries. And yet the debate in the Parliament...
Le président a dit à peu près ceci: je me suis rendu au Canada voici 2 semaines. La France ne possède plus militairement le Canada depuis plus de 2 siècles. Et cependant, le débat au Parlement canadien se fait en anglais et en français. Et 30% du peuple canadien parle français. Dans mon propre État d'Amérique, le français est parlé plus qu'aucune autre langue en dehors de l'anglais. Il a dit également cette autre chose: les Américains envoient leur fils dans l'université de l'Assomption, dans le Massachusetts, où on fait des cours en français. Et enfin, il a conclu: je salue Paris, je salue la France, je salue votre président.
Mais... un président qui salue un président. Alors le président qu'on a entendu parler américain, c'était un président américain. Ça n'était pas Bill Clinton, bien que la voix soit assez similaire, mais c'était son idole. C'était John Fitzgerald Kennedy, en visite à Paris en 1961 et qui se passionnait pour la langue française.
Ah, mais les Américains ont toujours été très attentifs sur ce qu'il se se passe sur notre territoire. Alors évidemment, ouais, la Coupe du Monde a braqué les feux sur notre petit pays. Et dans le Washington Post,
oui, qu'est-ce que vous nous avez
d'hier,
trouvé, François ?
Oui, je continue ma revue de presse. Il y est dit, la foule qui a célébré la victoire sur les Champs-Élysées avait les visages de la France d'aujourd'hui. Ce sont les Américains qui écrivent ça. Hein.
Oui.
Comme leur équipe, les fêtards étaient de toutes les couleurs de peau et de toutes origines raciales. On a gagné, hurlait une petite fille noire de 8 ans, dont la mère souriante portait la longue robe et le foulard orange des femmes musulmanes. Les Américains nous regardent.
Eh bien, j'ai justement choisi, moi, un témoin américain pour ce jour, pour ce bazar du jour.
Comme ça tombe bien.
Comme ça tombe bien. Eh bien, ce témoin américain, c'est un cinéaste qui vit en France. Il s'agit de Bob Swain. Vous savez,
Bob,
c'est ce monsieur qui a été césarisé à foison pour la Balance.
Mm-hmm.
Et Bob Swain est arrivé en France et lui, il avait une vision très littéraire de la France. N'est-ce pas, Bob ?
C'était la vie bohème. Il y avait une façon d'écrire chez Miller qui était très personnelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'intimité avec la lecture qui est formidable chez Miller. J'ai l'impression qu'il parlait à moi. Donc, je me suis baladé à Paris avec lui. Et j'ai dit, quelle société ? Parce que tout de suite, j'avais l'impression que c'était une société où on pouvait être libre, une notion de liberté. Que je n'avais pas dans l'Amérique de ma jeunesse, parce que je parle de période avant l'éclatement de la société dû à la guerre au Vietnam, dû à la révolution chez les Noirs, dû à une révolte contre le McCarthyisme, etc. Mais c'était avant. Hein? Quand j'avais 15 ans, c'était 3-4 ans avant que tout ça est arrivé. Donc, Henry Miller à Paris était tout ce que je voulais vivre. Donc, c'était un fantasme un peu... Et c'est vrai, c'était un fantasme. Ça a beaucoup changé quand je suis venu à Paris, quand même. Hein. J'ai vu que c'était... Pas tout à fait ce que j'imaginais.
Ah, Bob Swain. Bob Swain, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il avait réalisé La Balance. Il a réalisé quantité d'autres films, et dont le dernier, qui n'a été malheureusement distribué que dans très peu de salles en France. Si vous avez encore l'occasion de le voir, ça s'appelle The Climb, c'est le titre original. Le titre français, c'est Le Défi, où Bob Swain raconte un épisode de son enfance aux États-Unis. Un film assez tendre et
assez
réussi.
C'est un très beau film, ma foi, c'est vrai. Je vais vous proposer une technique nouvelle, François. Pour cette émission, nous allons innover. Notre mode d'emploi va s'armer d'une nouvelle technique. Il s'agit de demander à notre témoin quand vous allez dans un pays étranger, qu'est-ce qui compte le plus ? C'est le premier regard, la première fois. Eh bien, ça va être pareil. Bob, je voudrais que vous me racontiez votre première journée à Paris.
J'avais deux premières journées à Paris. Un, quand j'avais 17 ans, je suis venu parce que je suis allé voir mon oncle qui était... commandant de base militaire à Schaffenberg, près de Francfort, en Allemagne. Et je suis venu avec deux de ces soldats pour un week-end à Paris. Et j'avais 17 ans et on a pris le car. C'est une espèce de forfait, week-end à Paris, hôtel de troisième catégorie, etc. Et en débarquant de car, les deux soldats m'ont emmené tout de suite à Pigalle. Et là, j'ai eu ma première expérience, plutôt ratée, avec une jeune femme parisienne que j'ai trouvée sur le trottoir à Pigalle. Que c'était plutôt comique comme épisode. Rien ne s'est passé d'ailleurs. J'étais trop terrifié. Mais c'était mon première expérience parisienne française. Alors ça, c'était direct d'un bouquin de Miller, quoi. Mais ce n'était pas du tout comme j'imaginais. Et comme les choses ne fonctionnaient pas très bien, j'étais très longtemps dans la chambre avec la fille. Et puis, après un certain temps, les deux soldats débarquaient parce qu'ils avaient peur pour moi, parce que j'étais quand même le neveu de leur commandant, et qui m'ont sauvé de cette situation. Mais enfin, c'était un peu, disons, un faux départ à Paris. Je suis revenu quelques années plus tard, à l'âge de donc, 20 ans, 21 ans. Et ça, je me souviens très, très bien. C'était un mois d'août, le 10 août 1965. Il a fait un foie de canard. Et je suis débarqué avec un petit sac d'eau et que des vêtements de Californie, donc très léger. Et il a fait tellement froid, j'étais obligé de mettre mes pyjamas en dessous de mes vêtements comme sous-vêtements. Hey, sister, go, sister, soul, sister.
avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Non, non, sans façon, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi, j'ai hâte de manger.
Lady Marmalade, Patti LaBelle, c'est un tube qui doit dater de 1975.
75, c'est pas Patti LaBelle d'ailleurs, c'est elle qui chante, mais c'est oui. Le groupe LaBelle, c'est un trio. Oh, ah bah, qu'est-ce que vous voulez, faut être précis.
Oui, mais enfin, j'ai toujours été frappé lorsque je me rendais à l'étranger. Une des premières expressions que les étrangers utilisent en français, lorsqu'ils ne parlent pas notre belle langue, ils connaissent une expression, c'est « voulez-vous coucher avec moi ce soir ?»
Eh oui, parce que c'est...
Ai-je vraiment une tête sexuelle ?
Ah ben, bien sûr, ça, tout le monde peut s'en rendre compte à la radio. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est une expression courante, parce que nous avons, je dois l'avouer, nous avons la réputation de séducteurs impénitents.
Oui,
et donc,
oui.
En Amérique en particulier, où on ne parle pas beaucoup les langues étrangères et même pas beaucoup l'anglais, eh bien, c'est à peu près la seule phrase que les gens connaissent. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Oh non!
Alors maintenant, je voudrais vous montrer que si les Russes parlent bien français et que les Américains ne parlent pas très bien français, eh bien, les Allemands, eux, parlent extrêmement bien français.
Vive la France!
Le reste de la soirée, nos voisins ne furent pas moins fraternels.
Est-ce que vous voulez embrasser un Français?
Adorez en espérance et que l'hiver fût l'un de nous. Sous le beau ciel de notre France et le soleil revient plus doux. Quand la nature est revendue, quand l'hirondelle est de retour. J'aimerais voir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour.
Cet amour, aussi inattendu que spontané, ne change rien. Les Allemands ont eux aussi leurs jolies petites idées toutes faites. Voici comment ils nous voient.
Il vous arrive de penser aux Français. Quelle représentation vous en avez?
C'est un monsieur qui porte le béret basque, qui a la cigarette en bouche, les mains en poche, toujours de bonne humeur.
Sérieux?
Non, pas tout à fait. Qui aime les dames, n'est-ce pas? Quand il voit une jolie fille passer, qui se retourne et qui fait une petite remarque.
À qui l'on peut faire confiance?
Je connais le Français personnellement, je sais qu'il est camarade. On peut lui faire confiance. Si une femme peut lui faire confiance, ça c'est autre chose.
Le Français est camarade, hein, vous avez vu que le Français
oui,
est camarade.
On peut lui faire confiance, mais...
Vous avez remarqué qu'il parle bien, il chante même bien. Chérie, refois ma norme. Revenez en Normandie la prochaine fois, laissez les tanks dehors, c'est tout. Aucune importance.
Ça date de quand, cette archive que nous
venons d'entendre? C'est une archive enregistrée à Munich, à München, à la Fête de la Pierre en 1964.
Vous
c'est
prenez
une archive...
très mal l'accent allemand.
Bah oui, mais ça, vous allez vous en charger, j'en suis sûr. Mais tout de suite, ça n'est pas l'heure, car tout de suite, c'est l'heure de la séquence 78 tours.
Chip, chip, chip. Flühe d'amour et quand l'amour meurt.
C'est
on y
quoi
est.
Ça
Mistinguet, zingt. Ça, c'était ce que mon père racontait pendant la guerre. Ce qu'on entendait à la radio, la manière de lancer des chansons françaises, Fleur d'amour et quand l'amour meurt, avec l'accent allemand.
Est-ce que
aujourd'hui,
vous avez un disque de la guerre, justement?
Non, je n'ai pas un disque de la guerre. Pas du tout, pas du tout. C'est après la guerre. Ma chanson date de 1949, très précisément. Ça s'appelle Made in France.
Oh,
et c'est
oui.
Interprété. Accompagné par l'orchestre dirigé par Jean Faustin, c'est interprété par la grande chanteuse Lily Fayolle. Alors, qui était Lily Fayolle?
Vous allez nous le dire.
Elle est née à Grenoble en 1917.
Ça arrive à des gens très bien.
Et elle a fait des études de violon, de danse, elle a fait de l'acrobatie, et puis elle est passée au music hall. Et elle a commencé sa carrière en Afrique, à Dakar en 1939, et en Afrique du Nord en 1941. Vous vouliez de la guerre, on était en plein dedans. À Paris, elle a triomphé après-guerre à l'Étoile, à l'ABC, et elle a énormément chanté des opérettes et des grandes revues. Made in France, Lily Fayolle, l'orchestre dirigé par Jean Faustin, c'était en 1949.
Elle était petite main, elle vivait les pieds. Puis de San Francisco, elle de jeune billet. Tous les séparés, et pourtant un jour, avenue de la Tour Maubourg, Made in France. L'amour les rassembla, Made in France. Il lui fit du blabla, Vous avez le nez en saxophone, on dit trompette, ça ne fait rien, je vous pardonne, made in France. Vous avez de beaux appâts, made in France, fallait pas, touchez pas. Mais comme il prenait de l'assurance, elle lui dit made in France. D'abord laissez-moi, je suis sage et je rentre chez maman. Mais l'américain devint de plus en plus pressant. Made in France, je veux être votre époux. Made in France, bon alors là ça change tout. Je peux vous montrer mes références, c'est même chose made in France. Ils furent très heureux, eurent beaucoup d'enfants. Une fille, trois garçons aussi triomphants. De retour à Frisco, le père les présenta à ses amis du USA. Made in France, dit le papa ravi, made in France. Ils sont nés à Paris, d'ailleurs les garçons c'est naturel. Ils ont tous trois une petite tour Eiffel. Made in France, quant à la fille, vraiment made in France. C'est le portrait de son maman. Et là vous avez compris, je pense, un truc très made in France. Made in France, c'est une garantie, made in France. Même écrit en tout petit sur une étiquette, c'est capital. Les caractères deviennent des capitales, made in France. Un amour qui sourit, made in France. Article de Paris, une femme, un parfum, un air de danse. Faut que ce soit made in France. C'est comme un mot de passe ou comme un sésame, ouvre-toi. Un sourire aux lèvres du soleil par-dessus les toits. Made in France, c'est sans comparaison, made in France. Le plus chic des blasons, croire au Père Noël avec confiance. Tout ça c'est made in France, tout ça c'est made in France.
Made in France, Lili Fayol avec l'orchestre de Jean Faustin en 1949.
Alors c'est vous le voyez, histoire d'amour, en
c'est
fait,
encore hein. Une histoire d'amour avec une Française encore. Et un étranger. Mais parce qu'on n'arrête pas d'évoquer des histoires, on n'arrête pas de dire que le français est séducteur. Moi, j'aimerais lancer un appel aux auditeurs.
Lancez, mon vieux, lancez.
Non, parce qu'il y a des clichés ou des cartes postales, peut-être ça correspond à la réalité, mais en tout cas des clichés qui ont la vie dure. Depuis quand le français est-il jugé plus séducteur que toutes les autres nations?
Il y a les Latin lovers aussi, hein, quand même. Il y a les méditerranéens.
Oui, mais d'où vient cette réputation du français cavaleur? Bon, séducteur, oui. Mais cavaleur.
Oui.
Beau parleur.
Oui.
Et bon amant.
C'est tout
également.
Vrai,
mais ça date
vrai.
De quand? Quand est-ce que cette image
la vérité,
est
alors,
née dans l'imaginaire ou dans l'imaginaire populaire mondial?
Avec le tourisme.
Depuis quand? Alors écrivez-nous, essayez. Non, mais parce que pour que le bazar, pour que nous soyons meilleurs, nous avons besoin de vous, auditeurs. Alors vous écrivez, c'est le bazar, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris.
François et la Française dans tout ça.
Ah, la Française, elle est jugée mignonne, affriolante, légère.
Ah, la Française est légère. Non, je crois que vous vous trompez pour ça, parce que ça, c'est l'image de la Parisienne.
Ah.
Et la Française, mm-hmm. Ça n'est pas la même chose que la Parisienne.
Je ne suis
vous
pas
une
Parisienne,
preuve
ça me gêne. Ça
vous
me
voulez
gêne.
Une preuve?
Oui.
Nous allons demander à notre témoin, Bob Swaim, comment il a trouvé les Parisiens quand il est arrivé à Paris.
Je trouvais que les Parisiens n'étaient pas faciles, assez fermés. Assez prétentieux, mais malgré ça, j'étais quand même fasciné parce que j'ai cherché quelque chose, j'ai dit ça doit exister. Et puis, c'était un peu les Français surtout, mais on ne peut pas dire les Français, on peut dire les Parisiennes, parce que maintenant, je sais que même les Parisiennes sont quand même très différentes que les gens qu'on voit ailleurs dans ce pays. C'est comme à New York, les gens de New York ne sont pas les Américaines, comme on trouve à Kansas City, au Cleveland ou Indianapolis, hein, c'est pareil. Mais les Parisiennes, je trouvais que c'était un peu comme un club privé et je ne faisais pas partie. Hein. Et surtout, j'avais une chambre de bonne près de Place Victor Hugo dans le 16e. Je suis allé en bas, au café en bas, où je voyais les plus belles filles du monde, hein, richissimes. Je regardais à travers. Je veux dire, je n'existais pas. Invisible man, l'homme invisible, parce que j'étais ça. J'avais ces gonzesses, ces parisiennes avec les têtes complètement vides, mais d'une beauté sensuelle, sexuelle, sublime. Et moi seul dans ma petite chambre de bonne avec mes piles de Playboy, je dirais que c'était une période assez grotesque pour moi, parce que c'était comme le gamin dans la boutique qui voyait plein de bonbons, mais qui n'avait pas les moyens de les acheter. Alors, c'était tout à fait ce sentiment-là.
Mais,
le pauvre Bob.
Oui, mais enfin, bon, il n'y a pas besoin d'être américain quand on va dans le quartier qu'il décrit pour avoir à peu près le même sentiment, à savoir d'avoir sous les yeux des femmes qui ont l'air excessivement belles et qui sont inaccessibles.
Oui, mais quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi une chambre de bonne dans un quartier comme celui-là, il m'a dit, mais c'est pas compliqué, il n'y a que dans les quartiers riches qu'il y a des chambres de bonne, ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est assez logique. Mais je vais vous rassurer sur son sort.
C'est passionnant.
Bob Swaim, oui. Bob Swaim n'est pas resté seul éternellement.
Non.
Il a fini par rencontrer des Françaises et même la Française. Alors, mon cher Bob, je voudrais que vous évoquiez avec toute la tendresse qui vous caractérise, je voudrais que vous évoquiez cette rencontre un peu particulière.
Un soir, 11h le soir, quelqu'un a frappé à ma porte et c'était une petite Française. Parce que je n'avais pas de téléphone, qui emmenait un message d'une autre amie, parce que je devais partir en voyage avec quelqu'un, et puis comme je n'avais pas de téléphone, le voyage était repoussé, et cette personne a demandé à cette fille de venir, et cette fille est venue, et je me souviens, il y avait une tempête de pluie dehors, etc., elle est venue tout mouillée et tout, et elle est frappée à ma porte, et je l'ai invité de s'asseoir pour prendre un test d'été. J'avais une espèce de camping-gaz à l'intérieur, je fais, parce que je n'avais pas d'eau dans la chambre de bonne, j'avais rien. Donc je suis allé dans le couloir, je cherchais de la flotte, je fais chauffer avec mon petit truc de camping-gaz du thé, on a pris du thé. Et puis je suis tombé follement amoureux de cette femme. Elle est devenue ma femme, la mère de mes enfants, et puis ma vie a changé.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers, et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Je t'aime dans la joie.
une version de la chanson de Trenet qui avait fait couler de l'encre au moment où elle est sortie il y a une dizaine d'années.
Oui, ça avait très très bien marché, mais il y avait de nombreux détracteurs qui n'aimaient pas vraiment que des beurs deuxième génération interprètent Douce France de Charles Trenet.
Bah, ils avaient tort.
Les étrangers nous regardent, c'est le thème du bazar aujourd'hui. La France vue de l'étranger. Sébastien, j'ai encore un petit extrait de la presse étrangère.
Qu'est-ce que vous lisez, le François est lecteur.
Ah ben, je lis tous les jours les journaux. Alors, je ne lis pas autant qu'Alex Taylor, mais là, je dois le dire, c'est dans Libération,
il est en vacances,
quotidien Libération d'aujourd'hui, qu'on a des extraits de la presse étrangère suite à la Coupe du Monde de football. Et c'est une manière de comprendre comment les étrangers regardent la France. Et les Allemands, dans le Süddeutsche Zeitung, les Allemands sont amenés à se poser un certain nombre de questions sur leur propre vie. Cette euphorie, parlant de l'euphorie de la Coupe du Monde, cette euphorie, dit le Süddeutsche Zeitung, n'a rien d'agressif car elle n'est pas simplement bleu-blanc-rouge, elle est black-blanc-beurre. Ici se trouve une des plus profondes différences entre la France et l'Allemagne. Zidane, l'avant-centre, est automatiquement français grâce au droit du sol, même si ses parents sont étrangers. En Allemagne, un enfant qui naît de parents étrangers doit d'abord faire l'effort de s'intégrer. Mais le journal poursuit un petit peu plus loin. On peut se demander si le modèle allemand prôné par la CSU, qui demande à l'étranger de faire tout l'effort d'intégration, n'est pas suicidaire à la longue. Non seulement la ségrégation des étrangers en Allemagne est improductive d'un point de vue culturel, mais n'est-elle pas aussi absurde d'un point de vue économique ? Vous voyez, on regarde l'autre et on se pose un certain nombre de questions. D'ailleurs, les Français feraient bien de s'en inspirer des fois aussi.
Moi, je vous propose de ne pas regarder les Français, que vous regardez un peu beaucoup, je trouve aujourd'hui, d'un œil assez critique. Mais enfin, bon... Je voudrais qu'on s'intéresse aux Japonais et voir comment le Japonais peut découvrir la France. Eh bien, le Japonais, il découvre la France par la télé.
Vite.
Ou plutôt, il découvre l'Alsace.
Se marier à Niedermorschwihr dans le vignoble alsacien, c'est la dernière mode au Japon. Niedermorschwihr est en effet connu au pays du soleil levant depuis que la télévision japonaise y a tourné un feuilleton. Ces derniers temps, le curé de cette commune n'arrête pas de marier des couples de Japonais envoyés par une agence de voyage d'Osaka. L'évêché de Strasbourg s'en est ému et a annulé la cérémonie prévue pour demain. Certes, les Japonais se convertissent au catholicisme. Ils poussent même le scrupule jusqu'à faire des répétitions pour apprendre à dire « oui » en français. Mais le vicaire épiscopal n'est pas absolument convaincu et il renifle dans ses cérémonies une odeur d'argent plus terrestre que céleste. Véronique Pellerin, Radio France Alsace pour France Inter.
Ah, l'Alsace est une région qui est énormément appréciée par les Japonais. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises japonaises sont venues s'installer en Alsace parce qu'elles trouvent, ces entreprises, que là-bas, on est travailleur, on fait moins grève et on est beaucoup plus sérieux.
Ça y est, il va nous vendre l'Alsace maintenant. Mais on ne parle pas de l'Alsace, on en parlera, je vous le promets. On parlera de l'Alsace à ce micro. Mais je voudrais que vous nous proposiez quelque chose. Pour l'instant, c'est moi qui sors tout, des témoins, des archives et tout. Qu'est-ce que vous avez, vous ?
Ah bah tiens, écoutez, bah, puisque vous faites l'intéressant...
Allez-y.
Moi.
Sinon, je vous demande d'appeler Niedermorschwihr.
Non. Niedermorschwihr.
Alors, qu'est-ce que vous avez dans...
Alors, Niedermorschwihr, très connu. Bonjour à tous les auditeurs de Niedermorschwihr et de toute l'Alsace, que notre Alsace est belle. Je vous propose un disque mystère.
Allez-y.
Alors, on va voir si vous allez découvrir, de quelle chanson il s'agit, quelle chanson française. Allons-y, écoutons voir. Écoutez, ça vous dit quelque chose déjà ?
Ça, c'est du rap, ça.
Non, ça, c'est un peu difficile, c'est vrai. Bon. Pas deviné. Là, écoutez.
James Bond ?
Mais non.
Ah bah on dirait.
Taisez-vous.
Boku wa kippu kiri dare mo furi mukashi nai kino sasanu chikatetsu no kaisatsu uchi de taikutsu shinogi ni yonderu ridasu dai desu sore ni kaite aru mayami no hama no kurashi tokoro de boku wa kurai anagura de ai mo kawarazu shiganai kippu kiri いつも開けてる小さい穴小さい小さい小さい穴二等切符の穴一等切符の穴愛も変わらず小さい穴
Alors, Tissaï, ça veut dire des petits trous, Non, c'est...
Et vous l'avez reconnu.
Ah oui, c'est le passeur des Lilas.
De Serge Gainsbourg. Le chanteur s'appelle Tsutomu Koga.
D'accord,
qui interprète ce poisson. Il a fait tout un album de chansons de Serge Gainsbourg.
Mais vous savez que
japonais,
Gainsbourg est très aimé à l'étranger.
En matière de chansons, il y a des auteurs français qui se sont très très bien exportés. Charles Trenet, le premier d'entre eux, et Serge Gainsbourg, qui figure vraiment au top de la chanson de variété française.
Oui, mais même chez les anglo-saxons adapté.
Oui, tout à fait, même chez les anglo-saxons. Charles Trenet, Beyond the Sea, Que reste-t-il de nos amours. Et puis Jacques Brel également avec Ne me quitte pas, une seule chanson. Jacques Brel, lui, est énormément interprété. Mais Serge Gainsbourg, je vous ai trouvé un autre Serge Gainsbourg, vous allez peut-être mieux le comprendre, c'est un Britannique qui l'interprète, c'est Mick Harvey.
One night as I was just moping around in some English pub in the heart of London town, leafing through Monstrous Love by Paul Wells, a vision hovered above the whiskey and soda bottles.
Comte d'être de retour à Paris, où je n'étais pas venu depuis 4 ans. J'ai trouvé Paris plus beau que jamais et beaucoup plus souriant que la dernière fois à cause du printemps. Mes portraits. Je vais rester quelques jours à Paris et j'irai ensuite à London tourner to If By Sea. Ensuite, je vais tourner Bogambo en Afrique équatoriale.
Eh bien, nous remercions beaucoup Clark Gable d'avoir bien voulu parler en français. Vous l'avez tous compris, il est bien le même sympathique que vous connaissez, absolument le même que nous voyons avec tant de plaisir depuis si longtemps sur nos écrans.
Merci beaucoup.
Non, nous ne l'avons pas tous compris. Clark Gable, paix aux morts, mais quand même, n'est-ce pas? Apprenez le français. C'est ça que vous pensez. Je vois ça tout de suite.
Mais écoutez, c'est comme Clint Eastwood à la cérémonie des Césars. Si ses efforts de parler français étaient très touchants, le résultat était quand même assez drôle.
Eh bien, moi, je ne vous trouve pas tolérant. Ça me dérange. Et ce manque de tolérance est grave, en particulier au niveau de la langue. Ça peut traumatiser gravement des gens. Demandez un peu au cinéaste Bob Swaim.
J'avais une expérience assez traumatisante quand je suis arrivé en France. C'était la première semaine. Et gamin, 21 ans, j'arrive dans un bistrot et je demande, avec un gros accent américain, un sandwich jambon. Un sandwich jambon. Alors le garçon de café se moque de moi devant tout le monde, les gens rigolent et tout. Alors je veux dire, j'ai mis un mois avant d'aller dans un café pour demander quelque chose à manger. Hein. Je n'ai pas dit que j'ai crevé de faim, mais je veux dire, c'était quand même une chose qui me marquait. Et quand je suis allé en Italie, j'ai réalisé un long métrage en Italie il y a quelques années, c'était le contraire. Moi, je parle italien comme un vache espagnol. Mais les Italiens, ils disent « Ah, c'est bien, Bob, c'est bien, formidable, très encourageant, parce que tu fais un effort, parce que même si tu parles très mal, ils disent « Mais c'est formidable, tu parles très très bien, parce que c'est notre attitude, c'est notre truc, il y a une espèce de générosité comme ça que je ne trouvais pas ici. »
Amis français, soyez bons et généreux avec l'étranger. Oui, c'est le message que vous avez voulu nous transmettre.
Oui, moquez-vous, c'est facile. Ça, hein. Ouais, c'est facile, exactement. Très facile.
Bon, quelques chiffres.
Allez-y,
Sébastien.
Parce que vous aimez ça.
Bah, écoutez, si les Français sont regardés par les étrangers, vous savez que les Français s'expatrient aussi.
Ah oui, pour ne pas payer d'impôts, bien sûr.
Ah ben, pas seulement. Il y a environ, en moyenne, 120 Français qui s'expatrient chaque jour pour aller vivre à l'étranger. Et phénomène récent qui a été noté dans toute la presse depuis quelques semaines, c'est 20 000 Français qui, l'an dernier, ont décidé de s'installer en Angleterre. Un pays qui ne nous est pas toujours favorable,
non,
on peut le dire.
C'est vrai.
Et ils aiment bien l'Angleterre parce qu'ils ont l'impression que c'est beaucoup plus libre, qu'on gagne son argent plus facilement, bien que les salaires soient beaucoup plus faibles.
C'est vrai.
Et on y paye moins d'impôts, paraît-il.
Oui, enfin, mais comme on est payé tellement moins, ça ne vaut pas, peut-être pas forcément le coup. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai remarqué dans le témoignage de Bob Swaim. Ce qui m'a intéressé, c'est de constater qu'il s'attaquait à la légendaire politesse et à la légendaire hospitalité française. Et moi, ça m'étonne beaucoup. Alors, j'ai retrouvé une archive qui va vous prouver le contraire. Et je commence par un garçon d'ascenseur de la Tour Eiffel.
Demi-tour droite, vous descendez les marches sur votre droite, sur votre gauche. Non, c'est pas compliqué. Vous descendez et à gauche. Changement de cabine. Changing.
Allons-y, le scope de changement.
Deuxième écho, celui d'un des plus petits métiers. Un métier assez rentable, Madame Pipi.
Payant ? Oui, 60 centimes.
C'est un tarif fixe ?
Non, c'est écrit partout.
Non, mais je vous donne après ?
Non, toujours avant.
Ah.
Ah, c'est la règle d'ici, oui.
C'est incroyable, ça.
C'est incroyable. Comme vous aurez d'autres...
Moi, je donne toujours un franc, mais de moi-même.
Oui, mais il y en a trop qui sortent sans me payer. Quand elles ont fini, ils ne payent plus. Alors le patron nous a dit, prenez le client à l'arrivée.
Il y a des touristes qui sont embêtants, non ?
9 sur 10.
Ah bon ?
Une fois qu'ils ont pissé, c'est fini, ils veulent plus payer.
Je te trouverai un jour, ô toi que j'aime, et je t'aimerai d'amour, ô toi que j'aime. Dès que tu apparaîtras, tu m'appartiens droit pour toujours. Ton sourire enchanteur me troublera, et mon cœur dans ton cœur chavirera. Délicieusement, tu m'appartiens, toi, pour toujours. Pourquoi tardes-tu à Paris en ce jour merveilleux? Je t'attends de tout mon être. Viens vite apaiser mon cœur amoureux. Oui, je t'attends quand même et un beau jour, je te verrai toi-même pour mon amour. Et tu seras celui que j'aimerai d'amour toujours. Pourquoi tardes-tu à Paris en ce jour merveilleux? J'attends de tout mon être. Viens vite apaiser mon cœur amoureux. Oui, je t'attends quand même et un beau jour, je te verrai toi-même, oh mon amour. Et tu seras celui que j'aimerai d'amour toujours. Et tu seras celui que j'aimerai d'amour
Mademoiselle Scott, l'homme que j'aime, The Man I Love, la chanson des
c'est
frères...
C'est du Gershwin, ça.
La chanson des frères Gershwin. Hazel Scott, qui avait chanté cette chanson en anglais dans Rhapsody in Blue, un film qui date de 1945, qui était une biographie de George Gershwin. Et Hazel Scott, qui est venue s'installer en France dans les années 50, c'est là qu'elle a enregistré L'homme que j'aime en français. Et on l'a entendu chanter également une chanson de Guy Béard dans un film de Didier Decoin en 1957, Charmant garçon.
Bon, on n'est pas là pour parler de cinéma, quoique, oui. En fait, vous avez assez bien vu venir le coup, parce que comme on avait Bob Swaim, vous doutez qu'on allait parler cinéma. Bah, la question était toute trouvée. Que pensait-il, quand il était jeune, du cinéma français?
C'est vrai que, malgré tout, on était tous marqués, c'est normal. On avait 20-30 ans, et on était quand même très marqués par le cinéma français de cette époque-là, parce qu'ils étaient en train de faire des choses que personne d'autre faisait. C'est normal. Moi, quand même, j'avais un choc extraordinaire, c'est le jour que je suis allé dans un petit cinéma à Los Angeles, sur Western Avenue, dans un quartier noir, et j'ai vu les 400 coups de Truffaut. Mais c'est comme quelqu'un m'a foutu un poing dans la gueule. Mais je dis, j'ai jamais vu ça. C'était pas du tout le schéma de cinéma américain, la structure d'un film américain, le rythme d'un film américain, le propos d'un film américain. Mais c'était une chose mais révolutionnaire pour moi. Parce que d'un seul coup, il y avait un regard sur le monde qui était totalement différent.
Je sais imiter les chanteurs, je sais les histoires qui font rire les filles, je peux les séduire, je sais mentir, je sais piloter les avions, je reconnais les champignons, à table je sais me
Attendez, François, c'est quoi ça?
Bah écoutez,
on parle de la France vue de l'étranger, puis vous avez vu, le retour, ça va
bah
pas.
Bah oui,
du tout.
Non, mais c'est Jean-Jacques Nissen.
Ah bah oui, mais
c'est
Jean-Jacques
Nissen.
Oui, mais c'est celui qui a fait notre indicatif. Alors l'indicatif tout de suite.
Et oui, c'est Jean-Jacques Nissen qui a composé cet indicatif.
Et c'est la fin
également
de cette émission.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous, merci à Lina, merci à la discothèque, merci à Serge Gandon, merci à Christine Aguilar. Ils étaient tous là, ils sont venus. Et demain, Sébastien?
Eh bien, demain, on va parler, comme vous allez sûrement guincher ce soir, demain, on parle de bal et surtout de danse.
Quand vous dansez votre mouvement jerk, tous ces rythmes modernes, ils sont avec sexy machine, machine. Qu'est-ce que ça veut dire, sexy machine? Sexy, tout le monde sait, c'est... Machine.
Est-ce réellement une pénitence? C'est ce que nous avons demandé à un prêtre et c'est ce qu'il nous répondra demain. Chip, 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 chip.